I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est le rendez-vous jeu numéro 210. On est en octobre 2021 et on va vous parler du State of Play, de Guardians of the Galaxy, de Age of Empires 4 et de plein d'autres choses. On y va, allez tout de suite, hop hop hop, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. C'est un moment formidable qu'on passe ensemble entre amis. Et aujourd'hui, c'est grâce à Julien Gildevski, j'ai honte, mais son nom est très très compliqué. Merci Julien Bécamel, merci aussi Costorm, Antoine et le producteur de l'émission, Steph Sinalco. Julien, j'espère que tu me pardonneras. Si tu veux m'envoyer un petit mot sur Patreon, je ferai un gage pour toi pour me faire pardonner de cette prononciation absolument immonde. Le gage, je te promets que je le ferai. Donc tu m'envoies un petit mot sur Patreon et on verra ça. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, qui nous permettent de parler de tous ces sujets. Et de parler en particulier avec deux personnes qui vont me permettre d'avoir l'air un petit peu moins bête dans l'émission. D'une part, notre ami de longue date, Daniel Andrieff, alias Camus. Comment ça va, Camus ? Je pensais que tu avais couru de la crèche pour être à l'heure parce qu'on fait l'émission un peu plus tôt. J'en parle dans une seconde. Mais en fait, tu t'es défilé et tu n'étais même pas en train de t'acquitter de tes devoirs parentaux.
Non, mais parce que tu sais, quand on fait tout en 50-50, c'est un pour toi, un pour moi. Donc pour moi, ça sera ce soir, ça sera demain.
Le bon jour, bien joué.
Comme je t'ai mis dans la confidence, oui, voilà, je tombe sur le jour d'Halloween, donc je vais pouvoir voir tous les enfants de la crèche déguisés en petit Strum et mon fils déguisé en Ewok. Et c'est ça, c'est les choses qui sont les plus importantes dans ma vie maintenant, là, maintenant, c'est ça. Par contre, tu me mets beaucoup la pression, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir la barre, tout ça. Moi, il est 9h20, je garantis rien.
C'est vrai qu'on fait beaucoup plus tôt que d'habitude, parce que je dois m'occuper de ma fille. Eh oui, c'est marrant, hein, tout le monde, tous les gens qui ont évolué dans nos milieux commencent à être darons, et du coup, on est tous dans ces histoires. Et je dois m'occuper de ma fille à l'heure habituelle de midi, auquel on enregistre cette émission, et du coup, on fait l'enregistrement et le live sur Twitch à 9h, enfin 9h15, 9h30 maintenant, et toute la chatroom était scandalisée qu'on fasse ça aussitôt. Heureusement, ils sont là quand même. Merci à vous tous de vous joindre à nous. Et du coup, on va essayer d'être gentil, hein, quand même, Daniel, parce qu'on a un autre intervenant qui est là pour la première fois. Aubin, Grégoire, c'est bien ton nom de famille, c'est ça ?
Exactement,
oui. Ouais. Donc, Aubin Grégoire de JV.com. JV, il faut dire JV maintenant.
J'y vais maintenant, désormais,
ouais,
tout à fait.
De JV.com.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont changé de nom ?
Bah oui.
Ouais. Ça fait quoi ? Ça fait 2 mois, un truc comme ça ? Peut-être même un peu plus.
Ouais. J'y vais.
Et c'est quoi ? C'est un rebranding ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, excuse-moi, je t'ai dit, la seule chose qui m'importe, c'est demain. C'est mon enfant à la cage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un rebranding ?
Une image plus jeune. Voilà, un truc plus moderne. Ça va de pair avec une refonte graphique du site et tout ça, donc voilà.
D'accord, ok, d'accord. Mais du coup, attends, je pose une question, mais qu'on a dû poser déjà des milliards de fois, mais il y a JV le mag, ça c'est... Vous les avez rachetés, hein?
Non. Alors, honnêtement, on s'est tous posé la même question que toi quand on nous l'a annoncé. Tout le monde s'est posé la question, le public s'est posé la question quand on l'a annoncé également, mais en gros, ils sont arrangés, ils les ont juste appelés en mode, nous, on va se rappeler JV. Vous faites un magazine, nous fait un site, ça va le faire, non ? Et JV a dit oui.
Ok, d'accord.
Okay. En tout cas, c'est la version que j'ai eue, moi. Donc,
ouais, oui, c'est
pas quand. Moi aussi, quand je touche un gros chèque, moi, je ferme ma gueule. Hein, tu sais,
j'adorerais que JV le mag ait touché un gros chèque. Je suis pas certain que ça soit passé comme ça. Hein, mais bon, écoute, peut-être qu'on aura les retours de JV le mag un jour. Peut-être qu'il y a des NDA de folie, tu sais, des secrets de l'industrie qui seront révélés à un moment. On verra. Mais donc, merci Aubin d'être avec nous. Je voulais préciser quand même que tu es l'une des 7 personnes au monde à avoir réussi à faire le Daigo Paris sur Street 3. Et ça, c'est un privilège de t'avoir. Hein. Vous n'êtes pas nombreux quand même à avoir ce niveau de maîtrise dans les jeux de combat.
En vrai, à mon avis, on est beaucoup. Mais surtout, j'ai passé quoi 2h30 hein, juste pour faire le pari. J'ai même pas fait le combo derrière. J'ai vraiment
j'ai vu
tryhard pendant 2 heures.
Merde, un gros cul. Je suis pas au courant. En fait, il faut juste faire la parade Chun-Li, c'est ça?
Ouais.
La parade Ken versus Chun-Li.
Faut faire ça.
J'aurais pu faire le combo, mais...
Là où j'étais déçu, c'est que t'as pas sauté sur le dernier coup. T'as juste paré le dernier au sol et puis fait une petite projection. Du coup, est-ce que c'est validé par le comité international du Daigo Paris? Je sais pas.
Moi, dans mon cœur, c'est validé. Hein, c'est tout ce qui est important. je le sais au fond de moi.
L'autre, l'esthète, t'as pas fait le petit saut.
Mais je crois que moi...
C'est vraiment dommage, hein, vraiment, tout est gâché.
Sur Street 3, le jour où je réussirai à parer plus de 2 coups d'affilée, ça sera la fête, donc oui, je peux pas vraiment ouvrir ma gueule. Mais vous savez quoi? On a un programme bien chargé. On a d'une part le State of Play de cette nuit, qu'on va vous détailler. Je pense que ça va pas prendre très longtemps. Mais on a aussi des jeux hyper intéressants auxquels on joue en ce moment. Guardians of the Galaxy d'une part, Age of Empires 4 de l'autre, et peut-être d'autres choses qui vont se glisser ici et là, puis des news Xbox, des news de jeux, enfin il y a plein de choses, et il faut que ça tienne dans genre une heure et quart, donc on va y aller à fond. Il va falloir que je m'interrompe tout le temps
je
parce que
rien.
Je parle trop. Ouais, voilà, Daniel, ça va être compliqué, mais on va essayer, on va faire de notre mieux. Donc, on commence avec le State of Play de cette nuit, la présentation de jeux PlayStation que le monde attendait avec en haletant. On était tous tellement impatients. Comment dire, comment le décrire ce State of Play? Ça a un peu fait plouf, c'était décevant, il n'y avait pas grand-chose. Je pense que le consensus de l'Internet était assez clair. Il y avait la présentation de quelques jeux indés, c'est limite, on a l'impression qu'ils avaient d'autres choses qu'ils voulaient présenter et qu'au dernier moment, ils ont dû changer de programme. Je vais mentionner, oula, ça fait beaucoup de bruit dans mes écouteurs. Je vais mentionner les jeux qui ont été présentés très rapidement et puis vous pouvez me dire peut-être le truc que vous avez retenu, s'il y en a un. Ils ont ouvert avec, comment ça s'appelait, Deathverse, un spin-off de Let It Die. Bon, il y avait Star Ocean, The Divine Force, Five Nights at Freddy's, Security Breach, Death's Door qui arrive sur PlayStation en novembre et sur Switch aussi. Il y avait aussi Kart Rider qui est un jeu de cartes, une annonce de bêta ouverte pour King of Fighters 15, ça m'a fait plaisir, j'imagine Cobain aussi. Et surtout le truc, enfin il y a deux autres choses, We Are OFK, une sorte de jeu musical épisodique qui a l'air assez bien écrit. Et puis le truc qui semble avoir quand même fait vibrer quelques personnes, Little Devil Inside, dont on a vu un petit peu plus de gameplay, je crois qu'on en avait entendu parler ici ou là. Je vais donner d'abord la parole à Daniel. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué dans le State of Play ou c'était soporifique tout du long pour toi?
Juste pour contextualiser, je pense que ce State of Play est le digne anniversaire de la première année de la PS5, une console que pas vraiment beaucoup de gens ont. Qui est visiblement une console mythique parce qu'elle est jamais dans les bacs. Et ouais, tu sais, genre, je me dis que le jour où ça va changer, c'est le jour où je passerai à la Fnac et je tomberai sur la PS5 et je me dis ah la voilà enfin cette console. Alors je dis ça, j'en ai une, hein, mais disons que je l'aurais eu ou pas eu cette année.
Ouais, ça aurait pas changé ta vie, quoi.
Soyons sérieux, quoi. Et je veux dire, en plus, je joue beaucoup plus sur le disque dur que j'ai branché dessus pour jouer au jeu PS4. C'est pas la console sur laquelle j'ai loué Annie Réplicante, quoi. Est-ce qu'il y avait des trucs marquants? Comme tu l'as dit, moi, il y en avait. Il y avait que Star Ocean, parce que forcément, Star Ocean, d'abord, j'ai des amis qui travaillent dessus. Et aussi parce que c'est toujours un Star Ocean et je suis content d'avoir un Star Ocean, en fait.
Tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est la série, parce que moi je la connais assez mal.
Alors Star Ocean, si tu veux, Star Ocean c'est une série de Tri-Ace. Alors Tri-Ace c'est un studio qui est un peu fondé, c'est un peu la cuisse de Tales of, en fait. C'est-à-dire que quand Wolf Team s'est séparé et qu'ils ont arrêté de travailler exclusivement pour Sega. Ils se sont splittés. Il y a eu deux factions différentes. Il y a eu la team qui s'est auto-baptisée la team Tales of, qui allait bosser pour Namco à l'époque, et Star Ocean, qui est fondée par Treyace. Du coup, c'est pour ça qu'il explique que Tales of au début et Star Ocean étaient très 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 proches. Et ce qui s'est passé, c'est que la team Star... D'ailleurs, il y a Motoi Sakuraba, toujours à la musique des Star... En général, toujours à la musique des jeux Treyace, et en particulier de Star Ocean. Il y a un truc qui caractérise
C'est proche, ouais, de Tales of encore aujourd'hui. Excuse-moi,
non,
c'est
non,
la question.
Non, plus du tout. Ils ont pris quand même leur ils sont un peu séparés. Hein. C'est quand même. Mais bon, au début, quand ça a commencé, donc en 4, je te parle de ça, 96. Voilà, ça a commencé sur Super Falcon. Oui, c'était quand même des jeux assez proches. C'était des jeux assez vocaux pour la Super NES, c'est-à-dire il y avait beaucoup de voix digites. Et la particularité de Treyace, c'est quand même un studio de codeurs. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont là, ils sont pas tant là pour le jeu que pour le défi technique. Et ils adorent ça, pour avoir rencontré pas mal de gens de Treyace. C'est plutôt des gens qui sont là pour... Mais pas des défis techniques tels qu'on peut s'imaginer. C'est plutôt du genre... est-ce que tu vas arriver à passer des polygones, tel machin, genre... C'est des nerds de la programmation. Et ce qu'il faut savoir avec Treyace, c'est qu'ils ont souvent participé sans qu'on le sache à d'autres jeux, en fait. Par exemple, parfois ils sont crédités, parfois ils sont pas crédités, mais en tout cas, par exemple, Final Fantasy XIII-2, bon, c'est un mauvais exemple parce que c'est le plus mauvais des Final Fantasy pour moi, c'était eux. Lightning Returns, Final Fantasy XIII, c'était eux. Et souvent, ils programment en sous-main pour d'autres éditeurs parce que il faut bien aussi bouffer. Ils avaient un contrat assez mirobolant avec Sega fut un temps où ils ont sorti à l'époque Resonance of Fate et tout ça. Et au bout d'un moment, les ventes suivent pas toujours, donc ils ont dû changer de leur fusil d'épaule. Leur gros hit, à mon avis, enfin celui qui a mis tout le monde d'accord, ou peut-être c'est peut-être vraiment l'intrus de leur catalogue de jeux, c'est Valkyrie Profile, qui est un jeu extraordinaire. Et alors genre, ça a pris tout le monde par surprise, ouais. Et d'ailleurs, genre en fait, tout le monde attend un Valkyrie Profile un peu refait un jour, de la manière dont ils ont fait un ActRaiser un jour. Et c'est un éditeur intéressant. Le seul truc, c'est qu'ils sont assez irréguliers. Et là, en plus, ils ont choisi une direction un peu compliquée, c'est-à-dire ils ont fait une direction très Xenoblade Cross, donc celui qui était sorti sur Wii U, avec genre ça a l'air d'être un peu open space, open world, open ce que tu veux. On sait aussi qu'il y aura des limites parce que ça reste quand même c'est pas leur spécialité, quoi. C'est pas ouais. La problème, voilà. Mais moi j'ai un peu de tendresse pour Star Ocean parce qu'il y a toujours une espèce d'univers qui est pas très loin de Phantasy Star.
C'est ce à quoi ça me fait penser les extraits, ouais. C'est un petit peu ce...
Bah, c'est assez proche de l'esthétique un peu Phantasy Star Online maintenant, mais surtout des RPG SF, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et puis ça c'est le problème du trailer que montré hier, c'est que le héros avec sa choucroute sur la tête... autant les artworks qui sont assez incroyables, dessinés par Akiman, donc un ami, et en plus le chara-designer quand même de Street Fighter 2,
bah oui, c'est ça.
L'original, quoi, tu vois, c'est pas n'importe quoi. Lui, il est associé à Star Ocean depuis un épisode, depuis plusieurs épisodes, puisqu'il faut compter aussi les épisodes sortis en démat, enfin pas en démat, mais en smartphone. Donc ouais, je suis très curieux de voir ça. Alors, au début, je me suis dit, ah, c'est quand même un coup intéressant à jouer de l'avoir sur PS5. Et en fait, non, il sort sur tout. Il sort sur Xbox, il sort sur PC. Enfin, bon, comme la soupe habituelle, quoi.
Donc, un JRPG avec combat en action, un petit peu.
A priori.
Ouais, ça a l'air, oui, clairement. Donc, à voir. Star Ocean, c'est quoi le sous-titre du nom que je vois, tac tac tac, Star Ocean.
C'est Truc Force, c'est Divine Force.
The Divine Force, c'est ça. Ok, très bien. Donc ça sort.
C'est mieux que et c'est un meilleur sous-titre que le précédent qui s'appelait Integrity and Faithlessness.
Les titres japonais.
Je peux te dire que en japonais, le sous-titre, si tu le disais à l'anglais, c'est Infinity and Faithlessness. J'adorais le dire à la japonaise.
C'est ça. Voilà. Super. Bon, bah très bien. Star Ocean pour Daniel. Aubin, qu'est-ce que tu as retenu de ce State of Play, dis-moi?
Alors, comme on l'a dit pas mal, hein, mais c'est vrai que c'était un peu maigre. Même si moi, je suis très content, je vais juste en parler vite fait, d'avoir accès à la bêta de KOF 15, parce que... surtout la bêta, elle a l'air bien foutue parce qu'elle permet non seulement de jouer contre des gens que tu connais pas, mais aussi de faire des rooms. Donc, on va pouvoir tester le netcode, donc le rollback netcode, dans plein de conditions différentes. Ça, c'est cool parce qu'on peut savoir donc si on pourra jouer de manière qualitative avec des gens distants ou qu'on connaît pas, ou si ça sera hyper bien ou pas avec des potes ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Il y a même un training mode, donc ils ont vraiment bien fait ça pour une bêta, je trouve. Et sinon, comme beaucoup, moi, c'était Little Devil Inside, dont j'attendais beaucoup parce que moi, j'ai pas suivi le projet. C'est un projet qui a été annoncé en 2015, hein, donc il y a un moment. Mais qu'on nous a montré je pense que c'est au State of Play d'annonce de la PlayStation 5. PlayStation 5.
Il y a un moment.
Et c'est un jeu qui m'intriguait beaucoup, que je trouvais très joli, même si là, plus on le voit, moins je le trouve joli, même si c'est pas vraiment le cœur du problème. Hein, on sait bien que les graphismes, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est un jeu, en fait, j'ai l'impression qu'il a l'air d'aller dans plein de directions différentes. Je suis content qu'on sache un peu ce qu'on y fait, parce que on voyait plein de séquences de gameplay un peu par-ci par-là, qui avaient finalement assez peu de cohérence, je trouve, mais justement, ils ont l'air d'avoir trouvé un lien pour tout ça. Mmh. Donc je suis très curieux, je suis déçu de pas avoir eu de date de sortie, en fait.
Pour préciser, tu me dis si c'est vraiment ça. Ça a l'air d'être une sorte de jeu d'exploration et puis il y a des phases de combat dans une esthétique jouet en tilt shift un petit peu. Donc c'est genre, il y a écrit indie dessus au marqueur. Mais je suis pas certain d'avoir compris vraiment ce qu'on y fait et je suis pas sûr que ça soit encore. C'est genre aventure, exploration, combat. Je suis pas
en fait,
certain.
Moi j'ai la sensation que, comme on voit là, on peut se balader sur une world map. Et en gros, il va y avoir des points d'intérêt, des événements réguliers sur lesquels on va pouvoir zoomer et donc là passer d'une espèce de jeu Lorez un peu au world map à la vieux Final Fantasy remise au goût du jour, on va dire. Et puis on zoome d'un coup et on arrive au vrai jeu entre énormes guillemets où on va pouvoir avoir des séquences narratives, des séquences de gameplay. Et j'aime bien ce parti pris parce que ça va leur permettre de cette world map de faire une narration très rapide et assez dynamique, je pense, parce que ça nous évite les temps morts et tout ça. Et les premiers trailers, justement, avaient l'air de montrer un jeu qui avait l'air vraiment marrant, qui avait l'air aussi assez intéressant en termes de narration. On voyait des parallèles entre, en gros, le mec qui était chez lui dans son château, qui pose une pêche, et l'aventurier qui fait tomber une grenade, ce genre de choses. Bref, il y a vraiment l'air d'avoir un parti pris narratif et esthétique qui me plaît beaucoup. Après, à voir ce que ça vaudra, mais j'ai surtout très hâte d'avoir une date de sortie. Et c'est vraiment ce qui aurait pu, dans mon petit cœur, sauver le set of play d'hier soir. Mais là, c'est vraiment maigre.
Ouais. Bah, pour moi, j'ai l'impression que vraiment Little Devil Inside, c'est celui qui a parlé au plus de personnes. C'est ce que les gens retiennent de la présentation. Presque par dépit, je crois. Mais moi, il y a un autre truc qui m'a un peu plus parlé. Je voulais juste mentionner, parce que je dois le dire, le personnage de King of Fighters qui a été présenté, ça m'a un petit peu déçu. Parce que on voit encore à quel point les Japonais, c'est Dolores qui est une nana et elle porte un sparadrap sur le corps. Quoi. On se dit ouais, ok, il commence à évoluer, il commence à comprendre et bon, bref, je voulais le mentionner pour dire ça. J'attends évidemment toujours King of Fighters, mais voilà. Je vais passer sur tous les trucs sur lesquels je pourrais être désobligeant et parler de We Are OTK. OFK, pardon, c'est We Are OFK, un jeu basé, ce qui a été présenté avec une sorte de pastiche des trailers,
C'est le groupe de musique, là. C'est
exactement,
le truc
c'est
bizarre,
ça.
Hein, ces
c'est un truc clairement indie. Et il commence avec quelqu'un qui est dans un studio d'enregistrement qui fait genre, j'enregistre un trailer pour un gros triple A. Ils y vont un petit peu avec des gros sabots, mais c'est genre war, la guerre, c'est pas bien. Et la guerre, c'est un jeu où on ne parle pas du tout de politique dans notre jeu, ni bien sûr de colonialisme, ni de. Et on a des gros bras. Mais pourquoi nos bras sont-ils aussi gros? Sommes-nous des mutants? Enfin bon, bref, c'est un petit peu facile, mais j'ai trouvé ça rigolo. Et puis ensuite, il commence à parler. Oui, Aubin?
Ouais, moi je disais, moi aussi, j'ai trouvé ça bien vu. Enfin, ouais. C'est vrai que ça a des gros sabots, mais ça m'a fait marrer quand même.
Moi aussi, ça m'a vraiment fait rigoler. Et puis surtout, le concept du jeu, donc c'est un jeu indé avec un parti pris graphique vraiment. Là encore, c'est écrit indé en gros dessus au marqueur, mais ça fonctionne. Et ça va être un jeu épisodique sur un groupe de musique qui va, pour chaque épisode, être centré sur un de leurs titres. Et du coup, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Évidemment, ça peut se planter, mais c'est celui qui m'a paru le plus original, le plus intriguant. Et je suis vraiment curieux parce que l'idée de centrer le jeu avec donc 5 épisodes et puis un par titre et sur le parcours d'un groupe qui fait les choses, qui a l'air bienveillant, sympa. Enfin, c'est vraiment ce genre de mouvance de l'indé. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà, c'est celui qui m'a marqué encore une fois. Maintenant,
écoute, clairement. Enfin, moi, j'ai... heureusement que vous parlez de ces deux jeux parce que je les avais déjà oubliés en fait. Heureusement que vous les contextualisez. Mais honnêtement, c'était pas une grande. Enfin, genre même coff, j'avais dit ah oui c'est vrai qu'il y avait un coff qui était présenté. Mais en fait j'étais là genre je me disais ah, attends on en est à quel chiffre de coff? C'est coff 16 hein? Coff 15 il est sorti déjà. Mais en fait
tu veux dire en fait, que le trailer par semaine de coff 15 depuis à peu près un an et demi ne t'a pas.
Non je les suis plat. C'est pas que je connais pas coff Emirates. La nouvelle génération des jeux SNK là, mais non en fait c'est que comme je suis pas à fond, j'oublie surtout il y avait rien de mémorable quoi, c'était vraiment sans mauvais esprit on aurait dit une présentation Xbox quoi,
on aurait dit une mauvaise présentation Xbox, on peut dire ça.
Oui, au moins il y avait même pas le jeu de voiture, il y avait pas
je crois qu'on est d'accord et on va pas passer plus de temps sur le State of Play parce que celui-là il en valait pas la peine, c'était une mauvaise édition, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Il était
l'édition anniversaire, c'est ça qui compte.
Ouais, voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout pour le State of Play. Et puis, on va du coup vous parler d'autres choses, de jeux auxquels on joue en ce moment. Et je vous propose qu'on commence avec un jeu dont beaucoup n'attendaient pas grand-chose. C'est Guardians of the Galaxy. Le jeu basé sur le... À vrai dire, on peut presque dire plus sur le film du MCU que sur le comics, qui a été présenté il y a quelques mois à peine et qui est déjà disponible, pour lequel, comme je le disais, il y avait beaucoup de gens qui étaient assez, je vais pas dire réticents parce que c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas qui n'en attendaient pas grand-chose. Et au final, je crois que les critiques sont plutôt positives. C'est un jeu qui est pas le jeu de l'année, clairement, mais qui est meilleur que ce que les gens attendaient. Moi, j'y ai passé quelques heures. Je crois que tu y as joué aussi, Daniel. Pour résumer, c'est un jeu qui est au niveau du gameplay. Il y a trois éléments, en fait. Le gameplay, un petit peu de puzzle et la narration. Le gameplay a l'air sympa sans plus, mais distrayant, il va pas révolutionner les choses clairement. La petite partie puzzle est là non plus, disons même un petit peu en dessous du gameplay. Par contre, pour moi, et tu vas pouvoir me dire, Daniel, si je délire ou pas, pour moi, la narration et l'écriture... Merci. La narration et l'écriture sont vraiment tellement bonne que ça remonte le niveau de l'ensemble et que j'y passe un excellent moment. C'est là, pour le coup, pour Marvel's Avengers, on leur reprochait beaucoup d'être trop proche des films et d'être un petit peu ratés à ce niveau, que les personnages étaient étranges au niveau du look, que ça passait pas par rapport au film. Moi, j'ai trouvé que dans le jeu, dans la partie solo, bah, c'était un petit peu usurpé parce qu'au final, ils avaient des approches assez différentes des approches qu'on avait dans les films, des différents personnages d'Avengers. Là, clairement, on est sur une copie carbone de l'esprit du film de James Gunn. Mais alors, à un point où c'est exactement à 100% la personnalité de chacun des membres du groupe de Guardians of the Galaxy est calquée sur ce qu'elle est dans le premier film, dans le film de James Gunn. Et donc, si le film vous a plu, je pense que le jeu vous plaira parce qu'il y a une écriture qui est hyper, hyper ciselée et qui correspond exactement à celle du film, à l'esprit du film, aux blagues du film et qui, pour moi, est hyper réussie. Franchement, je me marre toutes les 5 minutes, mais de bon cœur, je rigole avec le jeu parce que c'est tellement drôle et les interactions entre les personnages fonctionnent, c'est... amusant à écouter. Ceci dit, je pense que ça sera là encore pas pour tout le monde, parce que si le film vous a pas plu, bah c'est pas la peine de vous arrêter, ça sera... C'est pile la même chose, donc ça va pas vous plaire non plus. Et puis en plus, il parle tout le temps. Mais tout le temps, ça s'arrête jamais. En combat, en train de marcher, en train de résoudre des énigmes, il y a des scènes cinématiques, c'est tout le temps en train de parler. La discussion entre les membres du groupe... qui s'envoie des vannes, dont tu sens que bah, c'est un groupe disparate et, entre guillemets, ils s'aiment pas, mais en réalité, ils s'aiment bien, ce genre de choses. Et pour moi, ça fonctionne vraiment. C'est incroyable comme, malgré... Alors, j'ai pas fini le jeu, hein, j'en suis au début, mais malgré plusieurs heures de jeu déjà, avec des discussions non-stop, ils réussissent à me faire marrer encore à chaque discussion, ou presque. Donc, c'est ma première impression sur le jeu. Daniel, tu dis que je ne délire pas. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que toi, tu as passé un mauvais moment ?
Il y a un truc qui s'appelle, que Stan Lee appelait la Marvel méthode et qui était sa méthode pour écrire des comics Marvel. Et en général, c'était je vous file un concept, vous dessinez et après, je remplis les cases avec du texte. Et mon texte qui est genre un peu rigolo, un peu witty, comme on dit, j'ai l'impression qu'il y a aussi une Marvel méthode, une Marvel MCU méthode, qui est prendre n'importe quoi, et un peu le tourner un tout petit peu en dérision, pas complètement, hein, c'est-à-dire ils ont leurs petits moments et tout ça, mais en même temps le tourner en dérision, pas trop le prendre au sérieux, et ça donne des jeux comme... ça donne des films comme ceux du MCU. Je peux vous dire, Eternals, il y a aussi des... Il y a aussi des petits moments comme ça, alors que ça se prend méga au sérieux. Mais quand même, il y a des petits moments. Il y a le personnage qui est joué par Kumail Nanjiani qui est là pour rappeler que ça reste quand même du Marvel avec des petites vannes et tout ça. Et c'est une espèce de... ça serait méchant de qualifier ça de soupe, hein, parce que mais c'est vraiment une recette qui fait que ça fonctionne, que d'ailleurs DC arrête pas d'essayer d'imiter, ils engagent les mêmes gens, ils engagent James Gunn pour faire la même chose et si possible en leur donnant pas mal de trucs d'action. La surprise de Guardians of the Galaxy, c'est que on revient d'Avengers qui était un véritable incident industriel qui est catastrophique en long, en large et en travers. Ouais, et je le dis, j'ai fini les 4 DLC. Hein. Je suis à jour, j'attends le prochain.
T'as été plus loin que moi. Hein. D'ailleurs, le prochain avec Spider-Man, il se fait attendre. Je me demande s'il n'y a pas un truc qui se passe mal parce qu'ils n'en parlent pas. Normalement, c'est Spider-Man exclu.
Il y a le chèque qui est dans la boîte aux lettres, il n'est pas passé.
Ouais, peut-être.
Moi, en tant que joueur, je suis surtout passionné de comics. Je suis toujours intéressé par les produits qui sont des licences et surtout par le fait que ces jeux-là avaient disparu, en fait. Les jeux adaptation de films, à part les Lego Movie, à part les trucs les Harry Potter ou tu vois ce genre de trucs, il y a plus de jeux qui adaptent vraiment le film qui vient de sortir. Et je pense que ça a été un peu
tué par, en fait, par les jeux Arkham, en fait. C'est-à-dire que les jeux Arkham ont poussé la barre tellement loin que les gens, ils se sont dit, et surtout Marvel, ils se sont dit, nah, laisse tomber, on va jamais faire mieux. Et du coup, Marvel a pris le temps de réfléchir à comment faire. Donc, ça nous donne parfois des catastrophes comme Avengers, mais aussi des jeux plus sympas comme Marvel Ultimate Alliance. Et surtout, je pense au 3 là, qui est sorti chez Nintendo. Et du coup, tu vois que Marvel essaye. En fait, Marvel, en jeu vidéo, ils sont devenus Warner. Ils sont devenus, ils sont devenus DC Comics. C'est-à-dire qu'ils essayent tout et ils voient ce qui va marcher. Ils réfléchissent, ils ont une stratégie globale. On ne comprend pas trop leur stratégie, mais ils se disent, on va tout essayer. Et c'est ce qui fait que je pense que Guardians of Galaxy fonctionne comme le film fonctionnait, c'est-à-dire des personnages ultra mineurs, des personnages. C'est vraiment c'était le fond du panier hein, quand Marvel est allé faire Guardians of Galaxy. Et donc du coup c'est la même méthode, ce qu'on appelle la bunch of misfits. C'est des mecs qui ont rien à faire ensemble, ça rigole et c'est ça qui est vraiment assez drôle. Alors je trouve que ils sont jamais aussi marrants que les acteurs du film même. C'est jamais aussi bien écrit que le film parce que le film, il faut quand même que ça soit fun sur deux heures. Donc là, parfois, il y a des petits moments de vide. Il y a des moments où ça se vanne pour que dalle, où tu sens que le script, il s'est dit « Ah non, là, il faut vraiment... »
Là, faut une vanne, là, faut qu'on dise un truc, ouais, donc il force un peu.
Mais ça a un côté très, très gentil, très... pas casu, mais tu vois, très... ça se laisse jouer. Alors, il y a un truc qui, pour moi, est vraiment le problème du jeu à la base. C'est que moi, tu vois, je suis pas du tout un gatekeeper. Je suis ravi de qu'il y ait différentes versions et différentes visions et tout ça. Mais ça aurait dû s'appeler Gardien de la Galaxie au singulier parce que tu incarnes que Star-Lord. Et honnêtement, si tu m'avais dit il y a un an que on incarnerait que Star-Lord et que moi ça m'emballait pas, tu vois. C'est un peu comme si je sais pas comment te dire, mais tu vois, enfin c'est un peu comme si t'avais une équipe de France et que t'as pas et que tu joues que le défenseur sur la gauche quoi, tu vois, c'est pas ouf comme idée quoi.
Je serais pas surpris qu'à la base le jeu avait prévu de faire jouer les cinq personnages. Ça a l'air dans les animations, dans les capacités, tu vois, que peut-être ça aurait pu se faire. Mais moi je suis pas hyper convaincu par, enfin pas convaincu, mais moi j'ai pas la même frustration. Parce que le fait d'incarner Star-Lord et de parler à tes coéquipiers et de leur demander de faire des choses, c'est une approche qui est relativement originale et qui te place au centre de l'équipe et qui, je veux dire, j'ai l'impression que ça serait pas aussi... on n'incarnerait pas autant notre personnage si on passait de l'un à l'autre. Là, on a à des moments des décisions à prendre. Il y a un tout petit aspect un petit peu jeu Telltale. On a des décisions à prendre qui concernent les autres membres de l'équipe, qui sont parfois un petit peu... Alors, pas lourdes, mais tu dis, merde, attends, je ne sais pas ce que je dois faire, à qui donner la faveur, qui privilégier. Et tu dois choisir par moment. Et du coup, tu as 10 secondes pour choisir et ça te met vraiment dans une position particulière. Et si tu passais d'un... Peut-être que ça serait très sympa aussi, hein, j'en sais rien, ça se trouve, il y aura un DLC et tu pourras jouer les autres persos, un truc du genre. Mais je trouve que là, enfin pour moi, ça fonctionne en tout cas. Je sais que c'est un reproche qu'on lui a fait même avant sa sortie. Moi, je trouve que ça fonctionne tel quel. Mais du coup, au final, tu l'aimes bien, toi, le jeu, ou pas? J'ai pas eu la réponse.
Comme toi, je suis pas allé jusqu'au bout, mais par contre, je pense que j'irai jusqu'au bout. Il y a juste un truc, c'est que tous ces genres de jeux-là, en 3PS, tu vois, ce genre de... Je trouve que c'est des jeux qui s'étendent trop, quoi. Les Uncharted, j'ai aussi ce problème, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils mettent toujours la dose à 30% de trop ou 20% de trop. J'ai peur que ça va être un petit peu ça et que ça va m'user un peu sur la longueur parce qu'on m'a dit ça fait entre 15 et 20 heures.
Ouais, ils disent mais 12 heures. Moi, si c'est 12 heures, ça me paraît bien.
On m'a dit entre 15 et 20 heures, mais après, je suis pas un complétiste. Hein, je suis pas là pour faire les trophées et tout ça. Mais ouais, ouais, non, écoute, c'est la surprise, c'est que c'est pas pourri déjà.
C'est ça, en fait. Non, mais tu le dis exactement bien. Tellement de gens s'attendaient à ce que ça soit pourri. Le fait que ça l'est pas, c'est genre ah, ok.
Et en plus, en fait, le truc qui vraiment aurait pu choquer, c'est que Star-Lord, il a vraiment. Star-Lord a le problème des jeux Avengers, c'est-à-dire que on dirait que c'est ce que j'ai disais à Gamekult, c'est on dirait que c'est la parodie porno du personnage du MCU et ce qui est le problème de tous les Avengers, c'est-à-dire que c'est genre ils essaient d'être proches mais c'est pas complètement proche et ça a l'air un peu chelou et du coup, comme tu vois pas vraiment Star-Lord et que tu vois surtout Drax et Drax c'est une gueule sous les maquillages, tu vois surtout Rocket Raccoon c'est une mascotte presque, du coup c'est pas si choquant en fait. Le côté, on a essayé de faire comme le film, et pas, c'est moins gavant que dans Avengers où tu vois tous ces dudules dans leur base et qui sautent sur place et qui font, tu sais pas comment et ça bug. Excuse-moi, j'ai des traumas de Avengers qui remontent là.
Non, je comprends.
Je crois qu'il y a
pas. Tu sais, j'y ai beaucoup joué aussi
ou qui a pas été buggé. Hein.
J'y ai beaucoup joué aussi, donc je comprends tout à fait ton sentiment de frustration et de déception sur Avengers.
J'aime bien juste dire un truc sur Avengers, c'est que pour y avoir joué, donc avec les DLC et tout ça. Il m'est arrivé de faire des parties en multi et parfois, t'as des gens qui souffrent à l'autre bout, quoi. T'as des gens, genre, je commence une partie d'Avengers et là, j'entends de l'autre bout et il fait « Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ?» Et ça m'est jamais arrivé de l'histoire de ma vie de joueur d'avoir des mecs qui sont à l'agonie qui sont en train de se dire « Pourquoi ?» S'interroger, en fait, quelque part, je dis merci Avengers parce que c'est un truc qui m'a fait me poser des questions sur ma condition de joueur, sur pourquoi est-ce que je me fais chier à aller d'un point A à un point B à FF14, alors que parfois c'est rigolo, parfois pas. Et c'est une vraie remise en question. Et surtout, à chaque fois que je le lance en stream, les gens me disent, mais pourquoi tu fais ça? Et du coup, j'ai compris
pourquoi
exactement ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Mais non, je suis content que Guardians of the Galaxy soit pas pourri comme Avengers, hein, faut pas déconner.
Ouais. Moi, j'insiste un petit peu sur ce point, vraiment. Si vous aimez l'humour du film, vous allez vous marrer dans le jeu. Ça m'a surpris, c'est difficile. Alors peut-être que ça baisse en qualité ensuite, mais vraiment l'écriture, moi, me fait marrer et c'est exactement le même genre d'humour un petit peu second degré avec Drax qui est très littéral, avec les Rocket qui est énervé tout le temps, avec le, enfin bon, bref, c'est les Misfits, c'est qui
même,
fonctionne
même le comics s'éloigne de ce modèle en plus, ouais. C'est-à-dire que d'ailleurs Guardians of the Galaxy vient juste de s'arrêter là. Où ils ont littéralement intégré tout l'univers dans le cast de Guardians of the Galaxy, genre c'est devenu les Avengers de l'espace, ouais. Alors que ça a toujours été un peu les renégats et tout ça, machin. Ça reste assez plaisant et le truc c'est que le sortir au mois d'octobre, qui est un peu le mois vide de ce genre de jeu, il y a pas de God of War face à face. C'était la bonne stratégie, c'était le bon timing et le fait que ce soit pas Avengers, tout le monde a l'air content en fait. Voilà.
Bah écoute, merci pour ce petit topo sur Guardians of the Galaxy.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parlons un petit peu d'un autre jeu très attendu, ou plutôt d'un jeu très attendu, Age of Empires 4. Aubin, je me tourne vers toi, parce que là aussi, c'est un titre que je ne connais pas du tout, et une série que je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler d'abord très rapidement de la série, et puis ensuite nous faire le topo sur Age of Empires 4 ? Dis-nous tout.
Avec plaisir. Du coup, en gros, la série Age of Empires, c'est une série de RTS, donc de jeux de stratégie en temps réel, où tout le but, c'est de faire fructifier une civilisation au fil des âges, hein, d'où le titre de la série. Donc on a quatre âges différents, l'âge sombre, l'âge féodal, l'âge château, puis l'âge impérial. Et je pense qu'il y a certaines civilisations qui en ont un de plus. Et en gros, à chaque âge, on va débloquer de nouvelles options. Tout le but, en gros, c'est de faire récolter à nos villageois des ressources, du bois, de la pierre, de l'or et un dernier truc que j'ai oublié, et de la nourriture, pour permettre de construire des bâtiments qui vont nous permettre de construire des unités. Et ces unités, elles nous permettent de nous battre contre des autres civilisations, contrôlées soit par l'IA et par le joueur, enfin, ou par des joueurs, jusqu'à 8. On peut jouer jusqu'à 8 en tout. Et en gros, tout le parti pris de Age of Empires, en tout cas à ses débuts, c'est toujours le cas maintenant, mais en tout cas c'était la grosse différence par rapport à d'autres RTS, c'est le fait que c'est une série qui s'est toujours voulu quand même plutôt réaliste dans son approche de la stratégie et de manière historique, on va dire. Pour beaucoup, le 2 est resté le meilleur pour plein de raisons, notamment parce que c'est un jeu qui a plein de civilisations, qui a un bon équilibre en termes de micro et macro game, comme on dit. Donc la macro game, c'est de produire, c'est comment tu produis tes unités, c'est comment tu gères vraiment ta civilisation. Et ta micro game, ta micro, c'est comment tu gères tes unités individuellement pour gagner une bataille. Et c'est ça qui a plu à beaucoup de gens. Le 3 a un peu moins plu à l'époque, même si il a quand même ses défenseurs. Et donc le 4 était très attendu parce que ça fait pratiquement, quoi, ça fait 15 ans, je pense, que les gens attendent Age of Empires 4. Moi, c'est un genre...
C'est le 2 définitive édition qui est sorti il y a un an, je crois, ou quelques mois.
Oui, il y a eu une édition définitive récemment. Après, voilà, le jeu reste fondamentalement le même, même s'il y a quelques petits ajouts. Je crois qu'il y a une civilisation, un mode en plus, des choses comme ça. Et les sprites ont été refaits. Typiquement, en fait, pour beaucoup, moi, c'est un truc aussi que j'adore dans Age of Empires 2, c'est le rendu visuel a un cachet monstrueux, parce que ce sont des sprites qui ont un vrai cachet, alors que n'a pas la 3D un peu moche, parce que c'est un truc dont je vais pouvoir parler très vite, hein, pour Age of Empires 4, qui est quelque chose que je mets dans ses défauts, même si moi, c'est quelque chose dont je me tape un peu quand je joue, mais c'est important quand même de signaler... aux lecteurs et aux gens qui veulent acheter le jeu, c'est que Age of Empires 4, c'est pas très très beau. C'est lisible, mais c'est pas très très beau. C'est un jeu qui accuse un retard technique. C'est un peu dommage. Après, moi je trouve que c'est un jeu qui fait beaucoup de bons choix, notamment dans comment quel est l'angle choisi pour les campagnes, où avant c'était genre vraiment un enchaînement de missions avec du texte et une voix off et tout ça. Ici, il y a un vrai parti pris didactique que je trouve génial. Où vraiment, en gros, on se retrouve avec des séquences filmées donc, en 2021. Donc, par exemple, ils vont filmer, je sais pas, je veux dire Paris, ils vont filmer Paris en disant « Voilà la cathédrale de gnagnagnagnagnagn », comme si on était sur National Geographic. Et par-dessus, ils rajoutent des infographies animées ou des soldats intégrés en 3D, des choses comme ça, pour... te montrer qu'en fait, oui, tu foules la même terre que ces gens-là. Enfin bref, je trouve ça assez passionnant. Et puis en jeu, on a la même narratrice qui nous dit quoi faire, mais en prenant l'angle justement de la du documentaire. Donc en disant par exemple, à ce moment-là, Genghis Khan mit son armée à l'abri dans la forêt, hein, ce genre de choses. Et donc tu te dis, ah ok, donc je dois faire ça. Sauf que je trouve ça ultra immersif. Et en plus, ça nous apprend vraiment, elle nous explique la logique derrière. Elle nous dit à ce moment-là, oui, il fait une fausse retraite pour qu'après ces deux troupes sur les côtés viennent les prendre en cisaille, des choses comme ça. Mmh. Et donc c'est vraiment passionnant.
Qu'est-ce qui se passe si tu suis pas les conseils entre guillemets de la narration ?
Bah tu perds hein, globalement. Enfin,
ah oui, d'accord.
Le jeu a été conçu pour que il te casse la gueule. Mais en vrai, les campagnes sont plutôt très faciles. Parce que justement, leur grande force, c'est tout ce côté historique, pour moi. Parce que même en plus, quand tu finis une mission, tu débloques donc des vidéos. Il y avait une vidéo dont beaucoup de gens s'étaient moqués.
Sur les trébuchets, c'était passionnant.
Exactement. Mais moi, j'avais trouvé ça passionnant, vraiment. Oui. Et en fait, plein, des vidéos comme ça, il y en a plein. Et il y en a, ça peut être aussi autant sur la côte de Maille que sur la construction des châteaux, que sur les fauconniers des nobles français. Enfin, vraiment, moi, je trouve tout cet aspect passionnant, alors que j'ai même pas beaucoup d'intérêt pour l'histoire de manière générale. Enfin, pas plus que la moyenne, quoi. Mais juste, le jeu le fait tellement bien, ça, que c'est passionnant, vraiment.
D'accord. Donc, c'est un Age of Empires classique. Est-ce que c'est très différent de Civilization ? Encore une fois, moi, je suis un gros noob de la catégorie, mais c'est très différent de Civilization. Est-ce que il vaut mieux prendre Age of Empires 2 Definitive Edition qui vient de sortir si c'est le meilleur de la série ? Ou est-ce que le 4 a ses... Enfin, tu parles de l'aspect historique. Est-ce que c'est seulement ça l'atout ? Ou est-ce qu'il est intéressant au-delà de
non,
ça
oui. Non, il y a vraiment d'autres atouts. Quand je dis qu'il est très didactique, c'est aussi en termes de gameplay. Où pour moi, c'est une très très bonne porte d'entrée pour le genre. À part ça, moi, je recommanderais StarCraft 2, qui n'a pas du tout vieilli, hein, malgré les 10 ans. Age of Empires 4, justement, toutes les campagnes sont extrêmement didactiques et parviennent à... En fait, les missions sont construites de manière à te faire comprendre les spécificités des civilisations. Donc par exemple, t'as les Mongols, qui sont la seule civilisation du jeu, qui peuvent déplacer quand ils veulent leur ville, en gros, parce que c'est un peuple nomade, et c'est aussi un peuple qui n'a pas de limitation de base de péons, on va dire. Normalement, tu commences ta partie, tu peux avoir 20 villageois, tu dois construire des maisons pour pouvoir monter jusqu'à maximum 200, et bien les Mongols, vu que c'est un peuple nomade, ils n'ont pas besoin de ça. Et du coup, ben, ça se joue complètement différemment, et la campagne t'explique très bien ça, et il y a des tutos ultra bien faits, et surtout qui revient vraiment aux bases. Donc pour moi, si on commence la licence, si on commence les RTS, ça fonctionne très bien, et ça n'a rien à voir, enfin ça n'a rien à voir, ça ressemble pas du tout à Civilization. Là où Civilization, en fait j'ai l'impression que l'entre-deux parfait, c'est les Total War, où les Total War, tu as les phases au tour par tour, comme dans Civilization, et les phases en temps réel, comme dans Age of Empires ou StarCraft, en gros. Et ici, c'est vraiment que du temps réel. Tu n'as pas vraiment de gestion. C'est vraiment plus de la stratégie et construire tel bâtiment à tel moment. Bon, ça, c'est de la gestion, mais c'est pas autant. Tu n'as pas les mêmes. Tu n'as pas les 4X, quoi. C'est pas un 4X.
D'accord. Ok. Donc, oui, parce que moi, j'ai mis un petit doigt dans les Total War et les trucs du genre, et je suis toujours complètement submergé de 1000 pop-up qui t'expliquent, ici, il faut faire ça. Mais c'est pas... disons que leur idée du tutoriel, c'est de t'abreuver de texte comme limite, comme on le fait dans un jeu mobile. Genre, là, clique ici, là, fais ça, et tu finis le truc en 2 heures, t'as rien compris, et en plus, t'as tout oublié. Là, c'est peut-être une meilleure porte d'entrée, tu dis.
Moi, je trouve... Après, moi, ce que tu dis, là, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur Civilization. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment aussi en fonction des profils.
Ouais.
Mais oui, je trouve, parce que tu lances le jeu, t'as directement un tuto où il te dit « Voilà, ben là, pour faire fructifier sa civilisation, ce gars-là, il avait besoin de nourrir ses villageois. Prenez votre villageois, cliquez sur un mouton. » Et voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et puis, t'arrives au final à construire ta civilisation et à venir à bout des missions. Et franchement, non, je trouve le tuto très bien fait. Au final, ce que beaucoup de gens risquent de lui reprocher s'ils connaissent la licence, c'est le fait qu'il ressemble vraiment beaucoup à Age of Empires 2. Ce qui n'est pas un mal pour certains, et je comprends la logique derrière, parce que c'est le plus apprécié de la licence et que le 3 avait été un peu conspué par certains fans. Mais il y a des ajouts que je trouve très intéressants, notamment le fait que les terrains sont très escarpés, genre tu as une vraie verticalité au point où parfois, je dirais pas que c'est difficilement lisible, mais au point où tu te rends pas compte forcément avant de monter, tellement la vue zénitale bouche un peu ça, où tu vois qu'en fait tes chevaux ils sont à 45 degrés en train d'escalader le truc, mais du coup ça permet plein de choses, ça permet de créer des embuscades, il y a des goulots d'étranglement, il y a la possibilité maintenant de se cacher dans les forêts pour faire des embuscades, donc il y a des nouvelles options tactiques, et c'est vraiment très intéressant. Donc je trouve que c'est un jeu qui arrive à vraiment revenir à ce qui faisait le sel de Age of et qui arrive à rajouter quelques trucs très intéressants. Juste dommage, ça manque un peu de civilisation au lancement, mais ils vont nous en mettre en DLC, c'est certain.
Ouais. Et en plus, bon, il est sur Game Pass PC, donc ceux qui ont le Game Pass y auront accès sans supplément. Donc bon, peut-être que moi, si un jour je reprends les parties de découverte, je pourrais me lancer dessus. C'est, si on a le Game Pass, on y a déjà accès.
Ouais, je vais juste revenir sur un petit truc que je vois dans le chat, si ça te dérange pas, où je vois Captain Flamme qui parle du pathfinding de AOE 2 Definitive Edition. En gros, le pathfinding, c'est et l'intelligence artificielle globalement, c'est tu prends une unité, tu cliques à un endroit et elle va prendre un chemin plus ou moins optimal. Le problème dans ces vieux jeux-là, c'est que ce chemin n'est pas vraiment optimal parce que l'IA est aux fraises. C'est encore un problème sur Age of 4. Moi, je joue beaucoup à StarCraft 2. Et là, le pathfinding est incroyable. Sur Age of Empires 4, il est problématique. Et c'est pour moi, c'est un des gros défauts du jeu qui devrait être adressé assez vite parce que les développeurs sont au courant, quoi. Vraiment. Mmh.
D'accord. Un petit mot sur le multi. T'as eu l'occasion d'y jouer. Il est bien ou juste en un mot?
En fait, le truc, moi, j'ai pas pu jouer au multi parce que j'ai eu le code à l'avance et il y avait pas de joueurs à ce moment-là. Donc, j'ai pu jouer contre des IA, mais dans les mêmes modes, hein, parce que tu peux choisir de remplir avec des joueurs ou des IA. C'est le jeu, en fait. Age of Empires, les campagnes sont très bien, mais le multi est super cool, mais c'est le cœur du jeu. C'est vraiment jouer contre d'autres joueurs ou contre des IA, hein, mais de jouer contre d'autres civilisations en simultané. C'est complet parce que les maps sont générées aléatoirement, donc il y en a, tu peux en mettre vraiment beaucoup. Ça va jusqu'à 8 joueurs et du coup tu peux jouer en 2v2, en 1v1, en 4v4, en 1v1, v1, 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 enfin en Battle Royale si tu veux. Ouais. Donc non, il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire et vraiment je recommande. Par contre pour l'équilibrage, je peux pas me prononcer parce qu'on est au tout Bien début sûr. De la vie du jeu et où j'ai pas joué en multi, donc là impossible à dire pour le moment.
Super, donc il est disponible aujourd'hui et il est sur PC et inclus dans le Game Pass. Merci Aubin. Bah écoutez, on a encore quelques trucs à couvrir, quelques news. Du coup, je vais, comme on est pressé et que ma fille m'attend dans pas trop longtemps, on va zapper la partie sur les patriotes que j'aime et que j'adore et qui soutiennent l'émission. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux hein, pour soutenir, ça vous le savez déjà. Et on va parler de news Xbox avec des choses assez intéressantes. Bon, d'une part, il y a des résultats positifs au niveau des revenus chez Microsoft, mais c'est une période de grosses ventes de consoles, donc évidemment, les revenus augmentent. Ça, c'est pas si surprenant que ça, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a eu une vidéo d'overview générale sur la campagne de Halo qui a, comment dire... Moi, ça m'a pas énormément changé mon avis sur la campagne de Halo. On en a appris un petit peu. On peut en parler dans une seconde si vous le souhaitez. Mais avant, j'aimerais parler des rumeurs des studios Xbox Publishing qui sont tellement nombreuses. On se demande à la limite si c'est pas des leaks contrôlés pour montrer qu'il y a des trucs cool ou intéressants qui arrivent. Mais on a eu d'une part un truc qui s'appelle le projet Bellfry qui est développé par les développeurs de The Banner Saga, dont certains d'entre vous se souviendront peut-être. Qui a un style graphique vraiment particulier, très très beau, et qui serait une sorte de mélange, enfin un jeu en plateforme de combat d'action horizontale, un petit peu à la Dragon's Crown, c'est le terme qui a été évoqué par les leakers comme Jeff Grubb. Je vais pas passer trop de temps sur chaque projet, mais il y a aussi un jeu un MMO qui est pensé pour pouvoir être joué par le cloud en streaming sur n'importe quel appareil. Donc vraiment pensé comme ça à la base. On n'en sait pas beaucoup plus sur le titre, mais c'est l'idée à la base. Et puis surtout, il y a un titre basé sur le lore du Wu-Tang. Le Wu-Tang, oui, vous avez bien compris. Le groupe de rap d'antan, qui est toujours actif, ceci dit. Et qui avait déjà eu un jeu il y a très longtemps, je me souviens plus comment il s'appelait ce jeu, Wu-Tang Chronicles ou un truc du genre, qui n'était pas excellent, mais l'idée d'avoir un action RPG basé sur le lore du Wu-Tang, moi ça m'a évidemment intrigué. Bon, on attendra de le voir avant de se prononcer sur sa qualité, mais ça m'a...
Très très partant, moi.
Ah, j'étais sûr que Daniel, ça allait te parler.
je suis un... C'est une facette dont je parle pas toujours, mais dans les années 90, j'étais très branché rap et tout ça. Et, ouais. Et Wu-Tang Clan, j'ai déjà vu en concert, tu vois. Donc j'ai poussé quand même la démarche. Ah oui, tu sais, c'est des concerts, c'est le genre qui te définissent en tant que vieille personne, tu vois. J'ai vu Wu-Tang. Et
déjà, quand tu dis les années 80, j'écoutais Wu-Tang, moi je suis dans ce cas aussi. Hein, donc,
non, pas 80, 90. 90, 90 ça, oui, pardon. Je suis pas si vieux. Je trouve qu'il y a une espèce d'énergie, il y avait une énergie, une vivacité que... Mais alors, qu'ils fassent des projets. Tu sais, moi, si Reza est impliqué, ne serait-ce que si Reza, il a acheté les olives pour le projet, j'en serais. Tu vois, je veux en être, ouais. Je veux voir comment ça va se passer.
Rien que pour la musique. Ensuite, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des droits, mais tu ne peux pas imaginer qu'il y ait un jeu sans certains titres au moins. Et, rien que pour... et puis des nouveaux. Enfin oui, non, mais clairement, moi, j'en suis. Aubin, tu disais, toi aussi, t'en es. Hein.
Ah oui, moi, je suis complètement vendu sur le truc. Après, moi, je n'irai pas jusqu'à... Enfin, je peux pas remonter jusqu'au précédent jeu Wu-Tang Clan, mais moi, Def Jam Fight for New York, c'est toute mon enfance, quoi. C'était incroyable.
C'est le meilleur des jeux Def Jam, parce que c'est des diamants que je n'ai pas encore découverts, parce que c'est une époque où je jouais pas à tout et tout, mais on m'a dit qu'il y a les jeux Def Jam qui sont vraiment pas mal, et il faudrait que je m'y attelle.
C'est le Smash Bros des rappeurs, quoi.
Oui, voilà, ok. C'est-à-dire, et en plus, il y a les musiques, il y a les persos et tout. Ça, tu vois, ça me parle, c'est un poème pour moi, tout ça.
Du coup, j'ai l'impression qu'on est plus excité pour ça que pour le trailer de Halo Infinite, enfin, la campagne de Halo Infinite, qui avait l'air de confirmer un petit peu ce qu'on avait vu à la présentation un petit peu dramatique d'il y a quoi, c'était il y a un an, un petit peu plus. Alors, graphiquement, c'est un petit peu plus beau, mais c'est pas non plus qu'on tombe par terre de beauté. Et puis, ça a l'air très open world, effectivement, ou en tout cas, il y a des éléments open world avec des bases à prendre, ce genre de trucs. Bon, après, c'est Halo. Je l'essayerai, il sera dans le Game Pass. Mais disons que cette présentation ne m'a pas retourné complètement sur le jeu. Je suis curieux, mais le solo n'a pas l'air d'être le truc qui enthousiasme le plus les joueurs, quoi. On va dire ça comme ça.
Je ne savais même pas qu'il y avait une vidéo de présentation de ça. Et c'est pas que je laisse Halo très loin de ma vie, mais je crois qu'Halo a décidé d'être très loin de ma life. C'est vraiment.
C'est vraiment.
Vas-y, dis du bien.
Quand
du
même,
bien.
On va essayer. Je sais pas, moi je trouve que je retrouve un peu ce qui a été vendu de manière générale, donc Halo en open world, parce que de base, les campagnes Halo, ça reste quand même assez bac à sable. Hein, c'est pas des mondes ouverts, mais ça reste quand même assez bac à sable. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que malgré l'aspect open world, j'ai quand même l'impression que. Ils ont réussi à garder des points d'intérêt, de créer des séquences de jeu intéressantes, comme là, par exemple, ce gars qui te fonce dessus dans un couloir. Enfin, c'est un peu simpliste, comme j'explique là, mais de ce que je vois, j'ai l'air de voir l'expérience Halo qui n'a pas l'air d'être dénaturée par l'open world, ce dont on aurait pu avoir peur. Après, clairement, c'est vrai que c'est pas ultra beau, mais moi, je trouve ça suffisant. Et j'avoue que Halo, moi, j'ai la campagne, je risque de faire une heure et puis de me dire « Non, mais je vais aller jouer multi parce que c'est pour ça que je l'ai installé, quoi. Ouais. »
Ils ont l'air de s'être concentrés sur ça, clairement, et c'est ce qui va compter pour la plupart des joueurs. Moi, je suis plutôt intéressé par la campagne, mais clairement, je vais tester. Enfin, Halo qui sort, tu peux pas ne pas le tester, surtout quand tu as le Game Pass. Voilà, c'est...
Color me en désaccord.
Ah oui, moi, tu as Game Pass et tu vas même pas tester la campagne Halo, Daniel ?
Absolument rien à foutre, ouais. D'accord. Désolé, mais après, le truc, c'est que mon intérêt pour Halo, il est allé en décroissant au fur et à mesure, et en fait, un FPS où moi, tu sais, je suis suffisamment vieux pour dire un Doom-like, bêtement.
Ça ne m'intéresse,
il faut vraiment, tu vois, même Wolfenstein, pourtant, qui met vraiment du fond, c'est-à-dire,
oui,
bah tu es
ton...
des nazis.
Là, c'est ton truc à toi, t'es pas du tout FPS.
Mais
il faudrait qu'il l'appelle genre « Halo, Master Chief !» Et là, tout à coup, ça t'intéresserait,
non,
tu vois.
Le dernier FPS qui m'a intéressé, c'est le premier Doom Eternal, enfin le premier
Doom
refait, tu sais.
Doom 2016, quoi.
Ouais, et de Doom 2016, il avait compris exactement ce que je voulais, c'est-à-dire quelque chose de speed, quelque chose qui ne m'ennuie pas. Et même le suivant m'a vraiment déçu parce que c'était un autre parti pris, c'était vraiment une autre démarche et tout. Et je comprends que ça plaise aux fans, mais par contre, ouais, non, en fait, j'ai un vrai problème. Tu vois, quand j'ai vu Cyberpunk et que c'était une vue comme ça, j'ai fait « Nope, pas intéressé. »
Bon, écoute, du coup, c'est pas pour toi, mais j'espère que d'autres...
J'espère. Tu sais quoi ? Moi, je veux aussi être positif et je vais rebondir ce que toi et Aubin vous disiez. Il y a quelque chose de mémorable dans Halo. Ça me suffit.
C'est, là, moi, juste, je revois le gameplay là, passer sur la chaîne de Patrick, et on voit quand même full gameplay émergent. Le gars sort de son vaisseau, tire sur celui d'un autre, rentre dans le vaisseau du gars qui vient de buter.
Avec le grappin, ouais.
Ça a l'air très Crackdown, en fait. Hein. Et j'aime bien Crackdown.
Là, à voir, écoutez, j'avance un petit peu parce que l'heure à laquelle je vais devoir récupérer ma fille approche. Donc, on avance un petit peu. Il y a quelques news sur des jeux comme Grand Theft Auto's Trilogy Remastered qui arrive le 11 novembre et dont on a enfin vu des images. Alors, c'est un look qui est assez cartoon, qui correspond, je crois... on peut en parler dans une seconde. Un look assez cartoon dans ce remake. Il y a un nouveau Pikmin en version réalité augmentée à la Pokémon Go qui s'appelle Pikmin Bloom, qui est développé lui aussi par Niantic. Des petits problèmes avec l'émulation N64 sur Switch pour le Switch Online avec Expansion Pass, qui est un petit peu malvenu vu le prix que coûte l'Expansion Pass. Visiblement, l'émulation n'est pas top, donc je voulais le mentionner. Et puis un autre truc, Warner Brothers, on parle encore d'eux, serait en train de travailler à un Smash Bros like, et la news m'a pas fait plus de plus impacté que ça, jusqu'à ce que je vois un tweet de Bagropoint, le site de jeux vidéo de jeux de combat, qui a noté que du coup, si on a toutes les propriétés Warner dans un Smash Bros, ça pourrait être Gandalf contre Tom et Jerry, et là tout à coup tu dis ok, il y a un truc spécial là-dedans, effectivement ils ont toutes ces propriétés là, visiblement il y a des trucs qui ont leaké, donc entre Grand Theft Auto, Pikmin, peut-être le Warner Smash. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu tous les deux.
Je veux te dire que je sens bien, et ça c'est une exclue que je balance ici, vous l'avez écouté ici en premier, Injustice 3, Bugs Bunny dans le DLC. Voilà, c'est tout ce que...
Parfait.
C'est... Non, mais après, chacun essaye son Smash Bros, mais tu sais, le problème de Smash Bros, c'est que les gens oublient que Smash Bros, c'est quand même un jeu très, 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 très béton et carré derrière, en fait.
Ah, ouais,
c'est un jeu.
On a eu le Nickelodeon dans Smash Bros, celui-là qui a l'air en plus, d'après les premiers retours, un peu cheap et qui serait un free-to-play. Bon, clairement.
Toi, t'es en tant que gros, gros joueur de Smash Bros, j'avoue que je regarde toujours avec intérêt un nouveau jeu qui s'intéresse aux plateformes fighter ou même juste aux gros crossover en général. Et, très très rares sont les jeux à réussir à avoir à garder une vraie cohérence visuelle et à avoir un gameplay aussi carré, quoi. Genre vraiment, ouais, jusqu'ici, j'ai jamais vu pareil, quoi. Les seuls jeux qui s'en sont le plus rapprochés pour moi, c'est les jeux Flash, quoi. C'est pour dire.
Là, et clairement, disons que généralement, quand un jeu est tiré d'une licence, il met beaucoup d'énergie dans l'adaptation de la licence et peut-être un peu moins dans le gameplay. Donc bon, il y a des raisons d'être un petit peu, d'être incertain sur ce jeu, mais pourquoi pas. Je veux dire un mot quand même sur le remake de Grand Theft Auto 3, de la trilogie. Moi, je trouve que graphiquement, c'est pas trop mal réussi au final. Je sais pas s'ils ont refait quoi que ce soit ou s'ils ont juste, pris les modèles existants et appliqué des shaders qui rendent le truc quatre fois plus beau. Mais au final, je trouve que ça fonctionne pas mal. C'est un look cartoon. Je sais pas. Et en plus, ils ont réadapté un tout petit peu le gameplay. Alors, c'est une trilogie qui va être vendue à 70,
full price, hein,
80.
Crois.
C'est full price, ouais, c'est ça. Mais il y aura, si je ne me trompe pas, un des trois jeux sur le Game Pass et un des trois jeux dans le PS Plus qui arrive en novembre. Donc, alors il n'y aura pas les trois, mais on pourra tester le truc. C'est pas San Andreas qui sera ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, il garde le plus populaire pour la trilogie, mais vous pourrez y goûter, si je ne m'abuse, quelle que soit votre plateforme de console. Donc voilà, je voulais le mentionner. Je trouve ça pas trop moche, franchement. C'est assez habilement fait.
Moi, j'ai jamais joué de ma vie, donc ce sera peut-être l'occasion. Le seul problème, c'est est-ce que si j'y vais avec des yeux frais et pas genre avec le poids de la nostalgie, est-ce que je vais pas trouver ça super ringard ?
Ah bah ça...
Il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a quand même tout un scénario qui repose quand même sur un immigré des pays de l'Est, et donc j'arriverai peut-être à m'identifier jusqu'à
le 4, ça.
Ah, c'est le 4. Ah, d'accord, okay, c'est même pas le 3.
Eh non.
Ah, d'accord, ok. Bah, donc, il n'y a même pas l'immigré de l'Est. Ah, je crois que ça va être compliqué.
Ah, merde. Donc, c'est compliqué.
En plus, il y a un truc, c'est que moi, j'aime bien, je suis roleplay justicier, moi. C'est-à-dire, j'aime pas tuer. J'aime pas. Je n'aime pas tout ce qui touche. Genre, la prostitution, je n'en approche pas. Genre, vraiment, c'est très compliqué pour moi, GTA.
Ah ouais, alors c'est peut-être pas. Oui, GTA, c'est peut-être pas le jeu pour toi. Hein, si,
non,
si,
moi, je, si quand il y a des casses, crime, tu vois. Ouais. Quand il y a des casses, moi, je choisis toujours la. Non, pour moi, il n'y a pas de mort. Mes casses, ils sont très propres. et oui, non, en fait, oui. Et alors, le seul truc où je m'accorde, c'est que les feux rouges, quand même, faut pas déconner. On sait très bien que les feux rouges, c'est un complot de l'État, si j'ai bien compris.
D'accord. Donc ça, tu les brûles quand même. Très bien.
Voilà, je suis quand même un libéral là-dessus. Mais par contre, non, je sais pas. En fait, je sais pas si ça a bien vieilli parce que.
Mais c'est la grande question sur GTA 3. Hein. Il date quand même et c'est un jeu particulier qui cassait les règles et qui cassait genre la bienséance sociale qu'on retrouvait parfois dans le jeu vidéo. Et bon, à voir si ça a tenu, quoi. Je suis désolé.
Pour moi, ça a forcément un peu bien vieilli parce que GTA, ça n'a pas tant changé que ça hein, depuis le 3. Hein, la structure est la même, vraiment la même.
C'est vrai. Aller d'un point à un autre et faire des bidules.
Et faire des missions, oui, clairement, clairement. Après, pour ce qui est vraiment des jeux, moi, je trouve, en tout cas visuellement, de ce qu'on en voit, San Andreas a l'air d'avoir vraiment bien vécu la transition visuelle. Mais Vice City, je trouve ça immonde. Mais après, c'est personnel, hein, mais toutes les séquences Vice City, je les trouve hideuses. Mais,
bah, voilà. Il faut avouer que c'est une minute de trailer, une minute et c'est tout. Et ils en montrent genre 30 secondes du jeu dans le trailer. Ils ont certainement choisi les bonnes séquences qui sont les plus belles. Ça reste un jeu qui a quoi, 15 ans donc bon, clairement, il faut pas s'attendre à des miracles non plus. À voir, ça arrive très bientôt, hein, le 11 novembre. Et j'imagine que ça va faire des sous pour
non. Tout,
qui en a bien besoin en ce moment.
Ils ont dit qu'ils faisaient ça gratos.
Je vais sauter tout un tas de petites news que j'avais sur Far Cry qui envoie des emails aux gens, sur Slowclap qui a fait un très beau coulisse du développement de Sifu qui m'a encore plus donné envie de jouer au truc, une update sur Eternal, on peut enfin sauver PUBG New State arrive le 11 novembre, un nouveau jeu du créateur de Stardew Valley, bref, il y a plein de choses que je saute parce que je veux parler de Nvidia qui a annoncé une nouvelle version du GeForce Now qui coûte $100 pour 6 mois et qui inclut en fait une machine qui est en gros une RTX 3080. D'ailleurs, le service s'appelle GeForce Now RTX, GeForce Now 3080, je crois. Et ça coûte, donc comme je le disais, environ. On réduit au mois, ça fait en euros, ça sera sans doute 20 euros par mois, mais il faut payer 6 mois à la fois. Et ça fait du 1440p à 120 fps, si vous avez la bande passante pour, avec des graphismes de 3080. C'est vraiment le streaming version super puissante. Et on se dit, bah, 20 euros par mois, ça fait peut-être un peu cher. Pensez au prix d'une RTX 3080 et tout de suite, ça remet les choses dans leur contexte. C'est l'évolution du streaming. On a vu que Stadia, dans le même temps, est en train de vendre son service en marque blanche, comme certains d'entre nous le prédisaient il y a bien longtemps. Ils font une opération avec AT&T aux États-Unis pour permettre de jouer à Arkham, un jeu Arkham à n'importe qui, ce qui est assez intéressant aussi. Mais le RTX, service RTX, allez, je dis encore une fois, 20 euros par mois, c'est mon estimation, c'est du coup la plus grosse puissance possible, ça sera disponible en novembre, hein, la plus grosse puissance possible pour un PC, pour 20 euros par mois. C'est quand même intéressant, non ? Je suis curieux de connaître votre réaction. Aubin, c'est un truc qui pourrait être
séduire. En fait, moi, je trouve ça intéressant et c'est l'évolution, comme tu dis, du cloud gaming. Et enfin, forcément, on allait partir de plus en plus vers de la puissance et de la fidélité visuelle. Moi, le truc qui m'intrigue un peu plus, c'est le fait que, moi, j'arrive pas à trouver l'intérêt de monter en gamme dans le PC qui va streamer mes jeux. Parce que justement, c'est du stream et que c'est peut-être parce que moi, j'ai fait beaucoup de vidéos, mais j'ai eu Shadow pendant un moment. Et tu vois la compression. Autant dans les jeux compétitifs, tu les vois pas trop parce que ça va vite, mais pour un jeu contemplatif où t'es censé faire péter la carte graphique, genre un RDR2, ça m'aurait saoulé de le faire avec la compression parce que tu joues effectivement à un flux vidéo. Et moi, je trouve que ça. Je perds quand même. J'y perds au change. Donc je pense que je préfère avoir un jeu moins beau sans compression, quoi.
T'as testé le GeForce spécifiquement dans les services de streaming parce que c'est à ce niveau, je crois que c'est possiblement le meilleur. Hein.
Ah ouais, je sais bien qu'on avait dit beaucoup de bien de Shadow à l'époque, ouais. Mais non, moi j'ai testé Shadow donc il y a 2-3 ans. J'ai pas testé GeForce depuis. Donc ça se trouve là maintenant c'est incroyable, mais je vois mal comment tu peux outrepasser justement ce problème qui est que dont on n'arrive pas à se passer, enfin dont on n'arrive pas à se débarrasser. Notamment, moi je trouve que ça fait 5 ans que quand on voit des trailers de jeux, des annonces de jeux, même s'ils sont super beaux, j'arrive pas à dire s'ils sont plus beaux que ceux sortis il y a 5 ans ou pas, parce que les qualités visuelles sont cachées ouais. Derrière la compression dégueulasse des players YouTube et des players Twitch, quoi.
D'accord. Bah, et disons que dans ce cas précis, étant donné que le but est d'avoir le plus beau jeu du monde, avec le plus gros PC du monde, c'est vrai que ça pourrait s'appliquer. Moi, j'ai été assez, sur la partie technique, hein, y a d'autres soucis avec le GeForce Now, mais au niveau technique, j'ai été assez impressionné. Mais bon, à voir ce que ça donnera avec le RTX 3080. Catching Tales dans la chatroom nous dit que c'est confirmé à 100€ pour 6 mois en décembre pour l'Europe. Donc peut-être que je vais aller le commander au moins pour le tester, même si j'ai d'autres soucis avec le GeForce Now, mais ça me permettra d'en parler. Quoi d'autre au niveau des news ? Il y a CD Projekt a racheté un studio, le studio qui a fait Dracolos et The Molasses Flood, je crois. C'est intéressant de voir que CD Projekt rachète des studios, eux aussi, tout le monde s'y met, et ils vont travailler sur un jeu de la propriété de CD Projekt. Je voulais mentionner aussi que le compositeur, merde, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Le compositeur des Persona a quitté Atlus et il veut faire des jeux indépendants. C'est Shoji Meguro et on en parle. Alors Shoji moi, Meguro, je suis pas très musique en général, mais sur les Persona et les jeux Atlus et les Persona en particulier, c'est tellement notable que je voulais le mentionner.
Et il va continuer. Il va continuer Persona. Hein, c'est juste qu'il a envie de
continuer à travailler avec eux. Ok, très bien.
Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et puis je peux comprendre parce qu'en fait, quand tu travailles en interne et que musicien, tu t'ennuies en fait. Tu composes tes trucs et puis souvent, et c'est pas comme si Persona il y en avait très très souvent. Donc, du coup, ça lui permet justement de travailler sur ses projets et en même temps de continuer Persona sans doute. Donc il y a pas de stress. Ça va. C'est juste qu'il va pas avoir son chèque à la fin du mois. Quoi.
D'accord. Bon, ouf, très bien, tout va bien.
Ce qui est le cas de tous les gens qui travaillent à leur compte, n'est-ce pas, Patrick?
ça peut arriver, effectivement. Mais il disait qu'il voulait carrément se lancer dans le jeu indé. Il a gagné, c'est un concours avec la Kodansha, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Mais je me demande s'il aura vraiment le temps, tu sais, si c'est pas le genre de truc que tu dis au début pour rassurer tout le monde. Et puis au final, les gens sont occupés et puis ils peuvent plus. Bon,
pas avec les psychos dans l'industrie qui se sont lancés en freelance. Je veux dire, Sakimoto... Et tous ces gens qui étaient avant, qui travaillaient dans des boîtes et puis qui ensuite se retrouvent en indé, ça va. Moi, je m'inquiète pas pour lui. Je pense très bien. Il a suffisamment de talent pour remonter en n'importe où.
Allez, encore quelques news rapidos. La BlizzCon 2022 a été annulée et Blizzard va prendre du temps pour réimaginer le futur des BlizzCon. Quand on met ça en parallèle de tous les problèmes qu'il y a eu chez Blizzard dont on a parlé abondamment ces derniers mois, le fait que les locaux de Blizzard en France, enfin l'entité Blizzard Europe SAS a été entièrement fermée et donc désormais les contrats, ça change rien, hein, c'est du transparent pour les joueurs, mais ça sera avec Activision Blizzard UK. Et ben, j'ai vraiment l'impression que le gobage de Blizzard par Activision se confirme. La BlizzCon donc disparaît et une BlizzCon réimaginée. Peut-être qu'elles reviendront, mais à mon avis, ça sera plus la même chose. Enfin, je crois que ça entérine la fin d'un truc. On verra ce que donnera le nouveau Blizzard, mais il y a clairement une transition. Entre parenthèses, ils ont acté le changement de nom de McCree. Vous vous en souvenez peut-être. C'est un des personnages d'Overwatch qui avait été nommé. Qui avait utilisé le nom d'un des employés de Blizzard qui avait été accusé, qui je crois a été renvoyé, ou en tout cas qui est parti, qui avait été accusé de harcèlement sexuel. Il s'appelle désormais Cole Cassidy, donc ça c'est acté. Voilà, un petit mot sur Blizzard. C'est surtout la BlizzCon qui disparaît, à mon avis. Je crois que ça reviendra pas ou que ça reviendra pas de la même manière. Et déjà, les trois quarts des gens sont partis. Là, clairement, Blizzard passe une étape, il y a un gros changement, quoi. Donc, On a aussi quelques petites news en plus. Advance Wars a été retardé, Shadow Warrior 3 a été retardé, et j'ai essayé de jouer à Lone Echo 2 sur mon Oculus Quest. Je vous raconterai un jour à quel point ça a été compliqué. J'ai enfin réussi à le lancer, mais bon sang, la VR, elle cède pas elle-même. J'étais hyper enthousiaste de remettre mon Quest sur la tête et de me relancer dans ces aventures. Ça m'a pris genre 2 jours, rien que pour pouvoir lancer Lone Echo 2. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire « Mais non, mais ça marche très bien, pas de soucis, enfin, qu'est-ce que tu racontes ?» Mais bon, moi, j'ai eu des soucis, je vous en parlerai un moment parce que je veux tester Lone Echo 2 et je vous en reparlerai quand je l'aurai vraiment eu dans les yeux. Mais je l'ai acheté, j'ai acheté le 1 et le 2, je vais les tester et je vous en reparlerai un moment. Et puis on finit avec la bande-annonce de Uncharted avec Tom Holland. Je suis sûr que vous avez été complètement séduit par ce film qui nous arrive dans, je ne sais plus, quelques semaines. C'est en février. 18 février. Ouais. Daniel, toi, tu es un spécialiste du cinéma aussi, c'est ton autre amour.
Et des blockbusters, c'est mon truc.
Qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce que tu prévois pour ce Uncharted avec Tom Holland?
Alors, en plus, tu dis que c'est assez chaud, puisque je l'ai revu en stream hier. Je fais toutes les semaines, je fais un stream culturel et le mercredi soir. Et on parle évidemment des blockbusters. Il y a un truc qui est... Je peux faire les mêmes constatations que tout le monde, à savoir que ça a l'air plus moche que le jeu et ça a l'air moins bien fait que le jeu, ce qui est très bizarre. Mais moi, ce qui me paraît surtout flagrant, c'est que le même jour, il y a eu un trailer d'un film très 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 similaire qui sort sur Netflix qui s'appelle Red Notice.
Oui.
Et qui a l'air 10 000 fois mieux.
Non, mais j'ai remarqué aussi, c'est avec The Rock ou qui y a dans Red Notice?
C'est avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, et pour qu'un film avec Ryan Reynolds m'intéresse, il faut quand même se lever tôt. et la Active Wonder Woman, donc je suis très content de la voir, parce qu'elle joue un peu le rôle visiblement de la méchante et tout.
Ouais, tout à fait.
Gal Gadot joue un peu la méchante, mais en même temps, je trouve ça très bien qu'il va y avoir une espèce d'osmose entre les trois. Honnêtement, ça a l'air 10 000 fois plus fun. Ça a l'air dispo sur Netflix, donc il n'y a même pas besoin de se déplacer. Alors que, franchement, Marky Mark qui a l'air éberlué devant des fonds verts, je ne sais pas si je suis impatient de voir ça.
Ouais, c'est
parce
que ça.
Parce qu'ils ont l'air hébétés. Tu sais quoi, j'aime bien Tom Holland. Je ne sais pas si c'est le. En fait, le problème, c'est qu'Uncharted, c'est une série de jeux qui est basé en s'inspirant sur d'autres trucs, sur Indiana Jones et tout ça. Et je ne sais pas si le rendre au cinéma, après avoir tant pompé sur le cinéma, je ne sais pas si c'est très intéressant.
C'était ton impression aussi, Aubin?
C'était exactement la même chose. Enfin, moi, c'est ce que j'avais dit en stream à la sortie du trailer. Si c'est pour avoir des codes qui sont redigérés, ce n'est pas forcément ultra pertinent. Surtout quand... Moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est qu'ils citent directement la séquence de l'avion d'Uncharted 3, un peu gratos, qui est plus là pour faire un money shot qu'autre chose et pour ramener les gens au cinéma, mais pour moi, ça a assez peu de sens, quoi.
Franchement, honnêtement, j'ai peur que ça soit genre pâle comme la photocopie d'une photocopie, tu vois, comme on disait à l'école avant.
Et en plus,
j'ai pas vu, hein, ça se trouve, ça sera...
On est ouvert à une bonne surprise, mais il faut avouer que rien que Tom Holland, qui a autant il est super bien en Peter Parker, il colle tout à fait, il est un petit peu awkward, il est bon. Là, en tant que Nathan Drake, je sais pas, c'est pas juste qu'il colle pas au truc du jeu vidéo, ça je m'en fous, mais dans le trailer en tout cas, il y a aucun charisme qui passe et on a l'impression que Sony l'a pris parce que c'est une tête connue et qu'il a du succès avec Spider-Man et qu'ils veulent le mettre partout. Mais qu'il a pas, enfin c'est ça reste quand il l'avait annoncé, c'était un choix étrange. Ça reste un choix étrange.
Le trailer sans la musique et sans le son, on voit Mark Wahlberg et on se dit que ça va être lui, quoi. Enfin moi je trouve, je vois le trailer, je me dis c'est Mark Wahlberg qui attend, quoi, non?
Et tu sais quoi, le pire c'est que pour avoir revu le trailer hier, quand tu vois les séquences, tu te dis putain. T'aurais mis Jackie Chan à la place, ça aurait été tellement fun. genre quand il grimpe là, tu sais qu'il y a des espèces d'halogènes et qu'il touche les lampes et tout, qu'il est au plafond. Je me dis, ah putain, Jackie Chan, il aurait donné un vrai trip visuel. Et là, genre, Bon. Ça y est pas. C'est. J'ai l'impression que c'est vraiment un projet qu'ils ont poussé depuis très 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 longtemps. Je pense honnêtement qu'à moyen terme, le truc, c'est quand même de créer une filière différente pour Uncharted, genre qui à l'adaptation des films, tu vois, que ça soit un peu comme Street Fighter où ils vont faire le jeu basé sur le sur le film basé sur le jeu, tu vois. Je crois pas tellement. Et en plus, que... bon. C'est pas comme s'ils avaient foutu des rois du film d'action aux commandes, voilà.
Ouais, on est d'accord. Bon, bah écoutez, on verra, hein, on va pas être trop négatif avant de l'avoir vu, mais clairement, ça n'a pas l'air incroyable. Merci.
Et c'est quoi la personnalité d'Uncharted ? Est-ce que c'est juste un mec qui fait non,
bah,
non, non, non.
C'est un peu ça. Le problème, comme tu le disais, c'est qu'Uncharted, c'est Indiana Jones meets Tomb Raider. Et bon, après, quand tu refais ça, bon, bref.
Et pour moi, Uncharted, c'est des corniches. C'est des corniches jaunes qui t'indiquent que t'as le droit de les grimper. Et ça, c'est vraiment la personnalité d'Uncharted. S'il n'y a pas des corniches jaunes dans le film, je ne vais pas le voir.
Corniches jaunes et non. J'espère qu'il le fera au moins une fois.
Here goes nothing.
Merci Daniel, merci Aubin, c'était un super moment passé en votre compagnie. Avant de se quitter,
merci à toi.
On va se donner le temps de nous dire où on peut vous retrouver. Daniel, où es-tu sur internet? Dis-nous tout.
Ah bah alors sur Twitch, twitch.tv/CamilleRobotics, donc aussi sur Twitter Camille Robotics. Je présente les podcasts After Eight, Super Ciné Battle et aussi occasionnellement je suis sur Game Cult où on présente Gaijin Dash avec Puyo et Greg. Et je tiens toujours à rappeler que tu es un peu le senpai, mon senpai Patreon, puisque tu m'as. D'ailleurs, j'ai toujours des conseils à te demander, et je pense que depuis que Patrick m'a coaché dans ma vie est meilleure. Donc voilà, on peut me retrouver à une fois par trimestre, une fois toutes les voilà ici aussi. Donc je pense que j'ai maintenant mon rond de serviette ici. Donc voilà.
Tout à fait.
Comme au cinéma, comme
sur les tournages, t'as ton nom sur la chaise.
Exactement. Et je précise aussi que j'écris pour Slate. Justement, je fais les blockbusters. Donc, mon prochain article devrait être Eternals. Donc, voilà.
Ouais.
Qui
n'a pas super bonne presse, visiblement. Hein. J'ai juste des
moi, je veux pas spoiler mon article, ouais. Mais désolé.
Écoute, avec plaisir, si tu as besoin de conseils, tu me passes un petit coup de fil.
Le consulting Patrick, essayez, c'est l'approuvé.
Aubin, merci d'avoir été présent pour une première expérience.
Un bon plaisir, j'espère que
ça s'est bien passé. Dis-nous où on peut te retrouver.
Alors du coup j'ai une chaîne Twitch, donc twitch.tv/obi_, et une chaîne YouTube qui s'appelle Aubin, où je parle un peu de, surtout principalement de jeux vidéo, mais un peu de plein de choses que j'aime bien, donc la photo, cinéma et tout ça, et sinon à côté de ça, c'est plutôt l'inverse, mais je suis rédacteur chez jeuxvideo.com, donc je teste et j'écris des articles.
Super, voilà. Merci beaucoup Aubin. Les liens vers vos deux comptes Twitter seront dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver les liens vers tout ce que je fais sur NotePatrick.com, y compris le Discord où on s'amuse beaucoup. On passe beaucoup de temps à discuter de tout ce dont on parle dans les émissions et de plein d'autres choses. Et vous avez aussi évidemment le Patreon, patreon.com/rdvjeux. Pour soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller y déposer un ou deux petits euros. Et on est évidemment en live sur Twitch, généralement les jeudis midi. Là, c'était un petit peu plus tôt. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir été au rendez-vous. Et moi, je vais filer. Donc, je dis au revoir aux auditeurs du podcast. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.